Salut, c'est Steven Jambot de l'Atelier des médias. On est ensemble pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast. La planète suffoque, les températures s'emballent, les forêts primaires d'Amazonie et d'Afrique centrale brûlent, les épisodes météorologiques extrêmes se multiplient. Pour dénoncer l'inaction des politiques, des marches pour le climat se multiplient à travers le monde, comme ce samedi en France. Objectif, mettre la pression sur les décideurs alors que se tient lundi à l'ONU un sommet spécial dédié à l'urgence climatique. Tout à l'heure, vous entendrez le photojournaliste canadien Louis Palou qui constate les effets concrets du réchauffement climatique sur l'environnement et les activités humaines dans l'Arctique. Mais comment mobiliser en ligne autour des enjeux climatiques? J'ai posé la question à une Française bien calée sur le sujet.
Atelier@rfi.fr.
Bonjour Magali Payen.
Bonjour.
Vous êtes productrice, fondatrice du mouvement On est prêt et experte en mobilisation citoyenne. Alors je le disais, vous avez fondé le mouvement On est prêt, c'était il y a bientôt un an. Vous aviez rassemblé plusieurs dizaines de youtubeurs, je crois ils étaient 62, qui étaient prêts à s'engager pour le climat. Donc c'était il y a bientôt un an. Quel bilan, presque un an après, tirez-vous de cette expérience ?
Eh bien, en fait, il s'est passé beaucoup de choses pendant cette campagne et suite à cette campagne. Cette campagne a duré un mois. Et en fait, à partir du moment où la vidéo de lancement est sortie, il y a beaucoup d'autres personnalités qui se sont jointes au mouvement. Par exemple, des sportifs de haut niveau tels que Nicolas Karabatic, Alizé Cornet, Cécilia Balmy. Il y a eu des chanteurs, des acteurs de cinéma, des acteurs de télé comme Lucie Lucas. Et en fait, la surprise au terme de ce mois d'action, c'était la sortie de l'affaire du siècle.
Nous avons été plus de 2 millions à signer pour soutenir l'affaire du siècle.
2 millions à signer pour attaquer l'État français en justice pour son inaction climatique.
2 millions pour s'inscrire dans un mouvement mondial, urgent et puissant.
L'affaire du siècle a été pour la France la plus grande mobilisation citoyenne en ligne. Elle a contraint le gouvernement à nous répondre.
Maintenant, nous devons l'obliger à agir.
Alors justement, quels étaient les indicateurs que vous avez particulièrement regardés pour apprécier l'impact de cette opération On est prêt, menée par des youtubeurs?
Bah alors les impacts archi-basiques qu'on regarde habituellement, ce sont le nombre de personnes touchées. Et en fait, rien que sur Instagram et Twitter, on a touché plus de 47 millions de comptes, donc hors Facebook et YouTube. On a eu plus de 200 retombées de presse. Mais maintenant, si on va plus loin, parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment la mobilisation citoyenne, les créateurs en fait sont allés beaucoup plus loin dans leur sensibilisation et leur engagement personnel. Donc les créateurs, c'est les youtubeurs. Et ensuite... chaque jour, donc, on proposait un défi et les ONG, les entrepreneurs vers lesquels on renvoyait nous ont dit qu'ils avaient eu des plus 1000% sur le site, que vraiment la fréquentation avait augmenté, explosé et que ça avait eu énormément de retombées pour elles. Et donc, le grand défi final, l'affaire du siècle, a débouché sur ce procès qui est en cours et par la suite a aussi permis de créer un rapport de force avec le gouvernement qui a débouché sur cette assemblée citoyenne tirée au sort qui va débuter à partir du 4 octobre en France.
Alors du coup, quels enseignements tirez-vous de cette opération? Y a-t-il des éléments essentiels pour mobiliser en ligne autour des enjeux climatiques que vous pourriez partager avec nos auditeurs qui souhaitent agir à travers le monde dans leur pays?
Eh bien, en fait, le pari de départ, c'était de se dire que si on parle tous d'une même voix, au même moment, sur un même sujet, qu'on porte tous la même revendication, en fait, l'impact sera démultiplié. Et c'est pour ça qu'avec On est prêt, on a voulu rassembler toutes ces personnes autour de revendications communes, alors que ces personnes en parlaient déjà, en fait, de leur côté, à des moments différents. Mais là, on a vraiment voulu sortir de cette cacophonie pour créer une symphonie. Et aujourd'hui, on cherche vraiment à étendre le mouvement On est prêt dans d'autres pays, justement pour pouvoir amplifier nos campagnes à l'international. Donc, si vous avez des auditeurs dans plein de pays du monde qui sont intéressés pour déployer le réseau On est prêt dans d'autres pays, welcome.
Très bien. Merci beaucoup, Magali Payen, et à bientôt.
Merci à vous.
Je le disais en introduction, les marches pour le climat se multiplient à travers le monde. Le mondoblogueur Tanguy Wera a participé à l'une d'elles, c'était en décembre dernier à Bruxelles. Et c'est le mondoblog audio de cette semaine.
Chien qui aboie ne mord pas. Il y a du vrai dans la sagesse populaire. 65 000 personnes sensibles au changement climatique qui manifestent, c'est sympathique, c'est bon enfant. Oui. Sympathique. familial. Parfois bruyant, jamais dangereux. Un clébard fidèle, en somme. Nous n'avons rien cassé. Pas un pavé n'a été arraché, pas un policier n'a été heurté, pas même une trottinette abîmée. Il n'y a donc pas eu de violence ce dimanche-là à Bruxelles. Nous autres, amis du climat, nous sommes des sans-dents, des gentils chiens que l'on tient au collier. Aurait-on dû être violent ? Le démocrate en nous murmure que non. On répète qu'on n'aurait pas osé emmener nos enfants dans un déchaînement de coups, de pétards, de lacrymos, de cocktails Molotov. Les enfants, ça doit être préservé de la violence, non ? Alors l'affrontement violent, nous l'aurions probablement désavoué. Cette violence-là, elle nous aurait divisés et les loups qui nous gouvernent auraient mieux régné. À l'heure où nous, les sans-dents, nous rentrions docilement dans nos niches, les loups nous tenant lieu de ministres regardaient vers les accords de Paris. Ils regardaient vers Paris et ils riaient, charmant Elvire, ils riaient. À l'heure où nous pédalions de Bruxelles à Verviers, ils s'envolaient dans des avions pour faire un saut au Maroc ou en Pologne. Nos ministres riaient. Ils allaient vanter au sud l'intérêt d'exporter et polluer toujours plus au mépris de l'environnement. Ils allaient à l'est revendiquer le droit à toujours moins d'ambition pour le climat. Et la violence qu'on voulait éviter à nos enfants, ils sont venus la leur jeter au visage. Aux enfants impuissants, forcés à assister à cela, ils répétaient en riant « Vos parents sont descendants, vos parents sont descendants ». Pourtant, chaque jour, ceux qu'ils traitent comme des chiens sont de plus en plus nombreux. Chaque jour, nous nous trouvons des points communs, nous les pelés, nous les galeux, nous les tondus, nous qui osons à peine aboyer plus haut que notre cul. Chaque jour, nous sommes moins dupes des os à ronger que les loups nous envoient. Chaque jour grandit le cynisme, chaque jour grandit la meute, chaque jour monte la rage envers les condescendants, monte la colère envers les condescendants.
Mondoblog.org. C'était Tanguy Ouéra du blog Autrement dit, et je vous rappelle que tous les Mondoblog audio sont à retrouver sur mondoblog.org. Les effets du réchauffement planétaire sont notamment visibles dans le Grand Nord, dans l'Arctique, une région du monde que le photojournaliste canadien Louis Palou parcourt depuis plusieurs années pour National Geographic, notamment aux côtés des militaires américains et canadiens.
My name is Louis Palou. I am a photojournalist.
Je m'appelle Louis Palou, je suis photojournaliste et je travaille depuis 28 ans.
If anyone listening right now thinks of the Arctic, what are the first three things that they imagine?
Pour ceux qui nous écoutent maintenant, quand ils pensent à l'Arctique, quelles sont les trois premières choses qu'ils imaginent? Comme ils ne peuvent pas y aller, ce sera certainement des ours polaires, de la glace, de la neige, des espaces vides, des communautés indigènes comme les Inuits. Mais personne ne voit plus loin que ça. Vous savez, pendant la guerre froide, il y avait un réseau d'alerte avancé, un réseau radar, qui a été construit parce qu'on imaginait une attaque par-dessus le pôle Nord de missiles russes, de bombes, une attaque qui aurait été catastrophe. Cette attaque n'est jamais arrivée. Et donc, de beaucoup de façons, avec le changement climatique, on doit imaginer ce que le futur sera. Et le scénario imaginé jusqu'à présent est la grande inconnue. Et la seule réponse que l'on a face à l'inconnu, pour le moment, est de déployer des forces militaires. Et je crois qu'on a besoin de comprendre que ce qui se passe dans l'Arctique va tous nous affecter. L'Arctique est l'endroit au monde le plus touché par le changement climatique. Il y a la fonte des glaces au Groenland, par exemple, et tout ce qui se passe avec le permafrost dans l'Arctique, qui va bouger vers le sud. On doit imaginer, et c'est dur d'imaginer avec nos journaux tellement factuels, on doit utiliser des photographies comme celles que j'ai faites, ou celles d'un de mes collègues, des films ou des écrits, pour imaginer ce futur inconnu fait de catastrophes.
Si on regarde le réchauffement climatique actuel, et du coup, une nouvelle route du Nord qui est en train de s'ouvrir. En fait, on se rend compte que votre travail, qui pourrait être un travail magazine, un travail presque documentaire, est presque un travail de news, de journaliste news, puisque l'actualité, maintenant, s'accélère dans cette région du monde. Est-ce que vous avez aussi cette impression-là, et peut-être maintenant des titres d'actualité ou des quotidiens qui commandent vos photos, qui, il y a encore 10, 15, 20 ans, auraient été publiées juste dans National Geographic, par exemple?
So there has been a lot of interest in the work.
Il y a eu beaucoup d'intérêt pour mon travail. J'ai commencé à travailler dans l'Arctique en 1993 et j'ai grandi dans le nord de l'Ontario où je chassais et pêchais avec mon père. Donc d'une certaine manière, j'étais fait pour le froid, pour réaliser ce projet. Mes 25 ans à travailler comme photographe et toutes les guerres que j'ai pu couvrir m'ont entraîné pour ce moment, en quelque sorte. Je pense que les gens voient mes photographies et se disent « ce n'est pas l'Arctique que j'avais imaginé ». Vous savez, l'Arctique est défini par nos désirs et ce que l'on veut qu'il soit. Par exemple, je veux qu'il soit ce bel endroit avec seulement des ours polaires. Parfois, les gens parlent même de pingouins. Je leur dis que c'est au pôle sud. Vous pensez au mauvais pôle. C'est assez drôle. Mais les gens inventent. C'est un peu comme la France, vous savez. Partout en France, il y a la Tour Eiffel. C'est un récit imaginé, inventé sur cet endroit du monde. Puis les gens viennent en France et se disent « Ah mon Dieu, la France est un millier de choses différentes. Il y a des milliers de gens et de cultures différentes. » Mais contrairement à la France, beaucoup de gens ne peuvent pas aller visiter l'Arctique. Et je pense que ce que vous voyez dans mes photographies, la métaphore, la couche plus profonde que j'ai essayé de mettre dans mes photos, et que la nature est le pouvoir ultime.
Vous avez dit qu'en fait, tout vous avez préparé dans votre vie à mener ce travail-là que vous avez fait dans l'Arctique. Aviez-vous vraiment tout anticipé en tant qu'homme et en tant que photographe, donc je pense là aussi à votre matériel.
Il y a différents types de personnes qui peuvent se préparer à aller dans l'Arctique. Mais finalement, l'Arctique peut vaincre n'importe quelle chose que nous inventons. Je pense que c'est incroyable. En tant qu'être vivant, en tant qu'humain, nous avons un ego qui nous laisse croire que nous avons ce pouvoir supérieur. Mais quand vous allez dans l'Arctique, vous voyez toutes ces inventions, ces sous-marins et toutes ces choses pour vaincre la nature, la surmonter. Mais l'Arctique est un endroit que nous ne pouvons pas maîtriser. Ce que nous devons imaginer, c'est ce futur incroyable, d'une certaine manière sombre, où un tout nouvel océan va s'ouvrir, sur lequel les gens pourront voyager. Et c'est ce moment dans l'histoire du monde que l'on n'a encore jamais vécu. Des bateaux de croisière pourront se rendre à un endroit qui était impossible à visiter. Il faut aussi imaginer ce que cela veut dire pour la sécurité de notre environnement et de notre monde. Et je pense, pour revenir à votre question, que l'appareil photo est plutôt direct. Certains jours, il gèle et ne fonctionne pas. D'autres jours, je gèle et je ne travaille pas. Mais vous savez, ce qui est incroyable, c'est l'envie de survivre et la motivation à faire ces photos. Et d'une certaine façon, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, le storytelling, c'est l'histoire de mes parents qui me racontaient des histoires d'un monde dont ils ont fait l'expérience. Mais c'est aussi mon expérience à être dans l'Arctique. Je vois ce moment incroyable qui pourrait servir d'avertissement pour que l'on répare la planète ou l'avertissement de cette apocalypse à venir et à laquelle on doit vraiment faire attention.
Je crois savoir que vous avez l'habitude d'accompagner des militaires en opération. Y avait-il des spécificités à les accompagner dans une région si inhospitalière où le simple fait parfois de respirer lorsqu'il fait moins 60 degrés Celsius, eh bien, peut vous coûter la vie?
Quand j'ai suivi ces soldats dans beaucoup d'endroits de l'Arctique, j'ai dû passer des tests. Il y a une chose que vous allez remarquer en regardant les photos dans l'Arctique, ils sont tout le temps en train de s'entraîner. Et la différence entre ces entraînements et n'importe quel autre type d'entraînement militaire, c'est qu'ils peuvent mourir chaque jour en s'entraînant. C'est le seul endroit du monde où l'air peut vous tuer. La température de l'air peut vous tuer. Il fait moins 60 degrés Celsius. Si vous montez sur une motoneige ou n'importe quel type de véhicule qui n'est pas couvert, il peut faire moins 79. Et au moindre accident, il n'y a pas d'hôpital où aller. Si vous avez un accident sérieux, vous pouvez mourir simplement parce qu'on ne peut pas vous transporter à l'hôpital pendant plus d'une semaine parce que le temps est trop mauvais et vous êtes tellement loin. Un autre défi, c'est le côté psychologique. Il y a au moins 2 mois de nuit totale. Et vous avez l'impression que la part instinctive en vous, votre animalité, vous sentez à quel point vous êtes isolé de n'importe qui et à quel point le besoin d'être avec d'autres êtres humains vous affecte. Après environ 2 semaines, on commence à se sentir vraiment déprimé. Psychologiquement, si je devais envoyer une armée là-bas, ce serait la première chose qui m'inquiéterait. Mais pour revenir au côté survie, j'ai dû passer des tests pour aller sur ces opérations. Tomber dans l'eau à travers la glace ou escalader à moins 40 degrés alors que vous êtes mouillé. Chaque jour passé dans l'Arctique, quelqu'un peut mourir, n'importe qui dans votre groupe. Même si je ne suis pas un soldat, je ne porte pas d'armes, je suis journaliste. Mais si je tombe à travers la glace et que je m'en remets, quelqu'un d'autre pourrait avoir besoin que je le sauve parce qu'il est tombé à travers la glace aussi ou a eu un accident. C'est l'environnement le plus extrême de toute la planète, à part peut-être dans un volcan ou quelque chose d'extrême comme ça. Mais c'est l'endroit le plus extrême au monde.
Et donc, vu ces journées bien occupées, aviez-vous quand même le temps, ménagiez-vous toujours quand même le temps de travailler et de faire votre boulot de photojournaliste? Ou est-ce que ce n'était pas parfois un petit peu difficile parce que il fallait penser à survivre avant tout?
You know, I always like mentioning some of the people who influenced me.
Vous savez, j'aime toujours mentionner les gens qui m'ont influencé. Par exemple, Catherine Leroy, qui devait faire dans les 1m50, il faut l'imaginer en train de sauter en parachute sur le Vietnam. On doit faire des choses incroyables pour avoir accès à certaines régions. Raymond Depardon, Gilles Pérès, tous ces photographes incroyables, toutes les distances et l'étendue des choses qu'ils ont dû faire pour obtenir leurs photographies. Le truc avec l'Arctique, c'est que tous les jours, tu dois tout imaginer. Tu pourrais, par exemple, mourir d'avoir perdu tes gants parce que tes mains vont geler et tu ne pourrais plus conduire la motoneige. Donc rien que perdre une paire de gants peut t'amener de sérieux ennuis. Les seules fois où j'ai vu des soldats avoir aussi peur, c'était en Afghanistan, à marcher sur un champ de mine. Parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils sont là-bas, ils n'ont plus aucun contrôle sur la situation. C'est comme un champ de mine, tu ne peux pas voir la menace, elle peut venir n'importe quand et te tuer. Tu peux aussi être dans une tempête de neige. Si ta motoneige tombe en panne, les autres ne le voient pas forcément, ils peuvent continuer leur route. Et alors tu es seul au milieu de nulle part. Pas de route, pas de réseau téléphonique, pas de GPS. Je me rappelle avoir été chassé avec les Inuits une fois. J'ai une photographie, c'est le phare avant de ma motoneige dans la tempête de neige. Et on s'est arrêté faire une pause, et j'ai demandé, est-ce que tu as les coordonnées GPS juste au cas où? Et l'Inuit m'a répondu, je pourrais éteindre ce GPS. Pendant des siècles, on a appris à se repérer aux traces de phoque dans la neige et à la direction du vent. Donc je pourrais nous ramener juste avec ces signes. Ce que cela m'a appris, c'est que les Inuits sont les premiers scientifiques et ingénieurs de la nature dans l'Arctique. Et ce sont eux que l'on doit écouter pour le futur.
Avez-vous eu l'impression que les soldats que vous accompagniez étaient en train de se préparer à faire la guerre dans l'Arctique ?
Il y a beaucoup de récits. Certains les inventent comme « Oh, nous devrions envoyer nos armées là-bas et contrôler cette partie du globe ». Je ne pense pas qu'il va y avoir des combats armés dans l'Arctique. Mais je pense que nous sommes revenus à certaines tensions qu'il y avait pendant la guerre froide. Pour des raisons différentes, évidemment. Il y a des gouvernements différents maintenant, d'autres régimes, d'autres puissances. Je ne vais pas prétendre qu'un pays ou gouvernement est le méchant de l'histoire. Mais je pense que la guerre s'est rétrécie. Les ressources sont épuisables, le nombre d'endroits sur Terre n'est pas illimité. Même si ce n'est pas vrai, il y a cette idée qu'il pourrait y avoir de la pêche, du pétrole, dans cette nouvelle partie du monde disponible. Et un pays comme la Chine, qui est très peuplé, vient et se dit « Oh, nous voulons une partie de cela et nous voulons exploiter ces ressources ». Donc je pense que ce sont de nouvelles tensions pour de nouvelles raisons à présent. Et je pense que le seul outil pour les gouvernements jusqu'à maintenant a été de mettre des militaires là-haut. Parce qu'il faut se demander qui sont les forces de police dans l'Arctique. Mais je veux être positif. Si l'armée est là-haut, je veux l'imaginer 10 ans plus tôt. « Et vous, sur ce bateau qui renversait du pétrole dans l'Arctique, nous allons vous arrêter, on va faire la sécurité pour empêcher tel meurtre et préserver cette grande étendue d'eau pour être sûr qu'il n'y a pas de pollution. » C'est le futur de la sécurité. Je pense que cette philosophie est ce qui va nous sauver sur cette planète, pas se battre les uns contre les autres. Il y a cette photo. Celle avec un avion écrasé. Cet avion est un peu enterré dans la neige et il y a deux soldats armés qui marchent sur ses ailes. En photo news, cette photo raconterait deux soldats marchant sur les ailes d'un avion écrasé et analysant les alentours. Mais si on la regarde plus métaphoriquement, avec son côté poétique, on y voit un avion. C'est l'une de nos plus grandes réussites. On a construit des avions pour imiter les oiseaux, pour voler. Et il est là, au sol. Et la neige l'avale et le mange. Et on est là à marcher sur les ruines d'une de nos plus grandes réussites. La plus belle chose qu'on nous a donnée, c'est l'environnement dans lequel on vit, l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit. Et si on le maltraite, le pouvoir suprême sur cette terre, la nature, va nous détruire. C'est pour ça que j'adore cette photo.
Merci beaucoup, Loupalou.
Thank you very much.
L'atelier des médias.
C'est tout pour cette semaine dans l'Atelier des médias. Merci à Simon De Creuse qui a réalisé cette émission et à Camille Sarrazin pour Mondoblog Audio et son coup de main pour traduire les propos de Louis Palou. N'hésitez pas à partager cette émission que vous pouvez écouter en version longue sur notre podcast. Je m'appelle Steven Jambot et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio, pour un nouvel épisode de l'Atelier des médias.